Ceci,
TV5 vous présente Afrique Presse.
Henri Périlloux.
Bienvenue dans Afrique Presse, l'émission débat RFI TV5 Monde consacrée à l'actualité africaine et internationale de la semaine. En studio avec Denise Epoté-Durand de TV5 Monde, je reçois Rachine Ndiaye de Matalana, Lucas Patria, Marché Tropicaux, et Xavier Harel de La Tribune, de deux titres pour cette édition. Les effets sur le continent africain du renchérissement des denrées de base et la hausse spectaculaire des matières premières. Et puis les Comores, l'ex-président Bakar Danjouan est exfiltré à La Réunion. Sera-t-il jugé aux Comores ? Alors commençons, si vous le voulez bien, par la crise financière américaine, devenue crise financière mondiale. Comment affecte-t-elle les économies africaines ? Sur les étals des marchés, les prix des denrées de base flambent comme jamais. Le blé, le riz, souvent importés, atteignent des niveaux jamais enregistrés. Les familles restreignent leur consommation. Pourquoi cette inflation devenue insupportable aux familles, Denise Epoté-Durand ?
Elle vient sûrement du prix du pétrole, puisqu'il y a une incidence sur le coût des transports et des matières d'importation, puisque les denrées de première nécessité sont des produits d'importation, le blé, le riz, le lait. Quand on voit par exemple au Mali que le prix du blé est passé en l'espace de 2 ans, a été multiplié 103%, une augmentation de 103%, on se rend compte aujourd'hui que les familles maliennes, dont le pouvoir d'achat et dont les salaires n'ont pas été augmentés depuis une dizaine d'années, pour ces familles aujourd'hui, ces produits sont inaccessibles. Ce n'est pas tellement un problème de pénurie, parce que ces denrées existent, c'est d'abord un problème d'accessibilité de ces denrées. Et ça pose aussi un problème fondamental, c'est que les pays africains n'ont pas de politique agricole volontariste. On avait espéré qu'en 1994, au lendemain de la dévaluation du franc CFA, ces produits auraient aider les pays producteurs pour avoir une production locale, mais surtout une transformation locale de ces produits. On pense aujourd'hui, dans le cas du Mali, pour le prix du pain, qui a été multiplié par 50 en l'espace d'un an, on pense aujourd'hui à mélanger le blé, qui est un produit d'exportation, avec des farines locales comme le sorgho ou le maïs, mais on n'en est pas encore là, puisque ça n'a pas fait baisser le prix du pain.
Alors, Lucas Patria, vous êtes sur ce plateau. Vous venez de publier pour Marché Tropicaux une enquête sur cette inflation. Vous confirmez les données que vient d'énumérer ici.
Oui, la difficulté pour l'Afrique, c'est qu'elle doit exporter une partie de ses denrées alimentaires, que les prix augmentent. Le paradoxe, c'est que la croissance africaine continue, comme vous le disiez. Le FMI projette que même si le prix du baril de pétrole augmente, la croissance africaine devrait se prolonger même pour les pays non producteurs. Et malgré cette croissance, la population s'appauvrit en termes de niveau de vie. Et donc, les gouvernements vont devoir arbitrer entre ces deux données, faire des choix économiques assez difficiles et politiques. En attendant, il faut quand même réussir à nourrir les populations. Et le choix, c'est d'essayer de se tourner, a priori, plutôt vers un retour de la production locale, comme le disait Denise.
Ce qu'on peut constater, notamment, c'est le peu d'investissement pratiqué par les différents États africains, notamment en Afrique de l'Ouest, sur le secteur agricole. Par exemple, est-ce que vous l'avez constaté lorsque vous voyagez ?
Oui, bon, il y a un problème de politique publique de manière générale, mais je crois que la constante aujourd'hui la plus visible, c'est quand même la question du pétrole qui accroît de plus en plus la dépendance énergétique de beaucoup de pays africains vis-à-vis donc du pétrole, puisque pour cette catégorie de pays qui sont donc dépendants de cet or noir, même si on peut relativiser aujourd'hui en constatant une baisse quand même remarquable du dollar, ça continue quand même à peser beaucoup sur les économies. Aujourd'hui, beaucoup de gouvernements sont obligés de différer un certain nombre de mesures concernant notamment la hausse des carburants, alors que parallèlement avec la pauvreté qui se développe d'un côté, certains gouvernements étaient obligés de procéder à une prime supplémentaire. On a vu par exemple au Cameroun que le gouvernement, le président Paul Biya a dû augmenter de 15% les primes, réévaluer les salaires de 15%, mais on ne sait pas très bien comment il va le financer. Mais en même temps aussi, quand on regarde aujourd'hui également le pays pétrolier, c'est vrai qu'il y a une contestation de la gestion de l'or noir qu'on peut le voir dans beaucoup de pays aujourd'hui. Beaucoup d'acteurs sociaux se demandent à quoi servent toutes ces recettes. Mais en réalité aussi, il faut dire que quand on parle du pétrole aujourd'hui en Afrique, c'est quand même un certain nombre de pays limités, c'est-à-dire le Golfe de Guinée d'un côté et puis l'Afrique du Nord de l'autre. Je crois que ces arbitrages vont être beaucoup déterminants dans les futures prises de décision.
Rachid, vous évoquez les efforts que font les gouvernements, notamment pour réduire les taxes, pour notamment réduire les droits de douane. Mais est-ce que ça n'est pas, je me tourne vers les marchés tropicaux, est-ce que ça n'est pas des recettes fiscales en moins pour les trésors publics? Et combien de temps pourront-ils tenir à pratiquer ce genre de mesures d'urgence nécessaires aux populations?
Les différentes mesures d'urgence qui ont été prises ont un effet d'abord de court terme et un effet sur les taxes, effectivement. C'est-à-dire, comme l'impôt sur le revenu n'est pas très diffusé en Afrique pour des raisons évidentes, je crois que c'est un quart environ en moyenne en Afrique des revenus de l'État qui viennent des taxes à l'importation. Donc baisser ces taxes a un coût direct sur le budget de l'État, donc qui va forcément se reporter sur les autres dépenses de santé, d'éducation, etc. D'autre part, on peut imaginer que donc les choix qui sont faits de subventionner certains produits comme au Mali ou de fixer les prix, etc., sont forcément des mesures de court terme et que donc elles vont amener les États à faire des corrections bientôt sur d'autres types de politiques.
Xavier Harel, une hausse du prix des matières premières, une hausse du prix du pétrole, qui en profite? Ces exportations des pays africains sont libellées en dollars. Le dollar baisse. Est-ce qu'il y a une plus-value, malgré tout, qui rentre dans les caisses des États africains?
Alors, bien sûr, il faut,
pour les pays producteurs.
Il faut conserver à l'esprit que fin 98, le baril de pétrole se négociait 10 dollars. Aujourd'hui, on est à plus de 100 dollars. Donc, même si le dollar a fortement baissé par rapport à l'euro ou par rapport au franc, les recettes pétrolières ont quand même été multipliées de façon assez conséquente pour les pays producteurs, notamment du Golfe de Guinée.
Conclusion ? Il faut une bonne gouvernance, c'est cela.
Alors évidemment, l'un des problèmes, c'est que lorsqu'on regarde, on pourrait considérer que le fait d'être riche en pétrole et d'avoir des ressources naturelles est une bénédiction. Malheureusement, l'histoire le montre, la plupart des pays producteurs de pétrole en Afrique, mais pas seulement, sont des pays qui sont abonnés aux guerres civiles, aux problèmes de gouvernance et qui bien souvent sont confrontés à des régimes qui durent et qui refusent des alternances démocratiques.
Et je suppose que beaucoup de pays souhaiteraient avoir des ressources minières, notamment de ce type. Qu'en pensez-vous?
Il faut quand même qu'actuellement, nous vivons dans ce qu'on appelle le système de partage de production. C'est-à-dire, durant de nombreuses années, les compagnies pétrolières qui étaient installées sur l'Afrique ne payaient uniquement que des redevances, des taxes relevant du code minier africain. À partir du système de partage de production qui veut que l'État, le pays et le producteur sont rémunérés sur la base de chaque baril, sur un montant déjà défini au départ, et même si le différentiel intervient après, ça a quand même un petit peu amélioré la situation de ces pays-là aujourd'hui. Mais le problème, c'est qu'en même temps, ça renforce les capacités importantes des multinationales pétrolières qui règnent sur l'Afrique aujourd'hui. De Shell à Total Financial, qu'on appelait il y a 50 ans les 5 sœurs, continuent quand même à peser sur le système, continuent quand même à être présentés par certains acteurs de la société civile comme quand même aussi des acteurs un peu importants dans ce système inégal entre l'exploitant, puisqu'on constate quand même que le pétrole, c'est pratiquement la seule ressource dont le prix de vente est supérieur au coût d'extraction. Cette réalité est là aujourd'hui et beaucoup de pays se sont lancés dans des politiques nationales d'hydrocarbures, c'est-à-dire en créant des sociétés nationales qui peuvent exploiter une partie du pétrole. Bon, maintenant, l'utilisation, c'est une autre histoire, mais je crois que tout ça, ça se joue un petit peu sur le long terme.
Xavier Harel, responsabilité partagée, il y a des taux de profit fabuleux réalisés par ces compagnies multinationales. Est-ce qu'il faut porter l'analyse critique, y compris sur ces compagnies aujourd'hui?
Oui, tout à fait. Il y a des responsabilités partagées. Alors, il est vrai que aujourd'hui, les pays pétroliers africains récupèrent une part plus importante des recettes pétrolières, justement après l'utilisation des contrats de partage de production. Néanmoins, une part importante de cette manne pétrolière s'évapore sur des comptes à travers des montages sophistiqués qui passent par des paradis fiscaux, à travers des sociétés écrans ou des sociétés amies. Et c'est notamment le cas du Congo-Brazzaville, où les choses sont extrêmement claires de ce point de vue-là, où une partie de la manne pétrolière est privatisée par des proches du régime de M. Sassou.
Est-ce qu'on peut s'arrêter de façon plus technique avec vous sur la façon dont la rémunération du baril en dollars constitue peut-être pour les multinationales une façon de réinjecter de la liquidité en dollars et de venir, comment dire, conforter un marché financier en crise aujourd'hui? Est-ce que c'est une analyse valable, Lucas Patria?
Elle est valable surtout au niveau des États producteurs. On voit une des grandes problématiques aujourd'hui du milieu financier, c'est l'émergence des fonds souverains. Ce sont des fonds qui sont gérés par des États producteurs de pétrole, qui amassent énormément d'argent et qui vont ensuite investir dans les économies, dans l'économie réelle et dans la sphère financière, et qui à ce titre titre-là ont une influence de plus en plus grande sur l'économie mondiale. Et l'Union européenne s'en est inquiétée, les États-Unis s'en inquiètent. Ce sont des pétrodollars qui viennent essentiellement des pays arabes. La Chine, avec ses exportations, donc pas de pétrole, mais a également un fonds souverain extrêmement puissant. Et les pays du Golfe et les pays et la Chine investissent massivement en Afrique aujourd'hui. Donc ils ont une influence directe sur l'économie africaine.
Donc ça, c'est une donnée, comment dire, plutôt encourageante pour cette économie africaine.
Observer que la production africaine ne constitue que 5% de la production mondiale. Ce n'est pas non plus une production qui s'étend à l'infini. La réalité aussi, c'est qu'aujourd'hui, il y a un autre débat qui n'est pas suffisamment évoqué. C'est quand même le système de développement qui est aussi à la base de cette surenchère sur le niveau du pétrole. Puisque à partir du moment où les Américains estiment qu'économiquement, ils ne sont pas en mesure de changer de mode de vie, le débat actuel qui consiste à dire que la flambée des cours du pétrole est essentiellement liée à la forte croissance des demandes venues des pays émergents, comme on dit Chine ou Inde, cette question aussi doit être posée aujourd'hui. Parce qu'en réalité, il y a des choses assez simples. Tant qu'on ne réduit pas les consommations de carburant par les bagnoles, les voitures, et c'est passé notre expression, quand on ne réduit pas la climatisation, on ne réduit pas le chauffage, on ne peut pas lutter véritablement contre cette hausse-là. Maintenant, les fonds souverains, il n'y a pas tellement de pays africains qui en ont, à part un peu la Libye, un peu l'Algérie. Les fonds souverains, c'est pas là, c'est dans le Golfe Persique. C'est eux qui ont aujourd'hui la capacité d'exporter ce pouvoir économique dans les pays du Nord.
Ce qu'on constate, et vous le disiez, Lucas, c'est l'extrême attractivité quand même des marchés ou des matières premières africaines. Et ce que l'on voit aujourd'hui, c'est les conditionnalités que mettaient les pays occidentaux à leur aide au développement notamment, sont aujourd'hui mises de côté par les Chinois, qui eux prêtent à bourse des liés. Comment ça va se jouer à terme pour certains pays africains en termes d'endettement notamment ? Les États se désendettent ? Ils vont reconstituer leur dette auprès des Chinois aujourd'hui ?
Reconstituer une dette, c'est une chose saine puisque ça veut dire investir aujourd'hui pour avoir des meilleures infrastructures, une meilleure éducation demain. Le problème, c'est la gestion de la dette. Il faut qu'elle soit soutenable. Donc c'est une question de somme empruntée, mais également de taux, donc de conditionnalité. Et on voit bien que les conditionnalités qui avaient été imposées par les grands bailleurs de fonds traditionnels, qui sont les Occidentaux, et les institutions de Bretton Woods sont effectivement plus ou moins abandonnées par la Chine qui institue une concurrence. Donc on peut se dire que la dette, malgré l'effort très important qui a été consenti en termes d'abandon de dette récemment, que l'Afrique risque d'être à nouveau dans une situation d'insoutenabilité de sa dette.
Alors est-ce qu'il y a une réflexion dans les pays occidentaux précisément sur la façon dont il faut aujourd'hui respecter ses partenaires dans l'argent qui est injecté auprès d'un certain nombre de partenaires africains, c'est-à-dire qu'ils décident eux-mêmes de leur propre investissement plutôt qu'on leur impose des choix dont on n'a pas vu aujourd'hui totalement les résultats.
C'est très net. On constate un retour d'une pratique qui avait été abandonnée en grande majorité par les pays bailleurs, qui est de prêter de l'argent à un État et non pas à un projet. Et de dire, voilà, je vous donne 10 millions de dollars pour les infrastructures si vous voulez, faites-en ce que vous voulez. Par contre, ça reste un emprunt, ça reste un prêt, donc il faut quand même rendre des comptes sur la somme, mais l'État est libre de l'utiliser comme il le souhaite. On peut voir là, d'ailleurs, un effet positif de la concurrence chinoise sur les sommes prêtées.
Donc, il pousse, en fait, les Occidentaux traditionnels, partenaires des pays africains, à revoir un petit peu leur méthode et leur profit. Il y avait une autre, peut-être, conséquence aussi de cela, c'est est-ce que le FMI, par exemple, va donner plus de représentativité, Rachid, aux pays africains ?
Oui, mais je veux dire, cette représentativité n'a aucun effet sur l'économie quotidienne, comment l'économie fonctionne. La réalité aujourd'hui, c'est le flux d'argent, c'est les transferts. À partir du moment où la notion de zone protégée est plus ou moins abandonnée sur le terrain économique, vous savez, aujourd'hui, il y a des pays qui étaient considérés avant comme des alliés traditionnels de la France, dans lesquels c'est Peugeot, Renault, qui pouvaient investir. Aujourd'hui, ce système est battu en branche. Aujourd'hui, si vous lisez un journal qui est paru récemment, le président Sassou Nguesso du Congo disait que, bon, écoutez, les Chinois sont les bienvenus au Congo et dans tous les secteurs d'activité. Et c'est la même chose aujourd'hui au Gabon, c'est la même chose aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Cette réalité aujourd'hui, pour une fois, on serait presque en train d'être d'accord avec les libéraux en parlant de la main invisible du marché. Mais la réalité, c'est que la mondialisation fait aujourd'hui que les pays s'adressent aux États qui font des offres beaucoup plus intéressantes. C'est que ce qui veut dire aujourd'hui concrètement, un homme d'affaires africain qui ne trouve pas de visa pour venir à Paris pour acheter du matériel agricole, il cherche un visa pour aller à Hong Kong, il va l'acheter. C'est ça un peu la réalité.
Les effets bienheureux de la mondialisation.
Je le crois.
Je vous propose de passer maintenant à deuxième sujet d'Afrique Presse, les Comores. L'opération UA armée de fédérale comorienne s'est déroulée sans incident majeur. la coalition a mis fin au séparatisme menaçant pour la fédération et les populations d'Anjouan. Mais que faire du colonel Bakar aujourd'hui, qui est exfiltré par la France à La Réunion? Il s'était illégalement transporté à Mayotte. Est-ce qu'il faut effectivement qu'il soit jugé? Il faut qu'il soit jugé aux Comores et qu'il soit extradé. Est-ce que c'est ça la vraie attente aujourd'hui, Denise?
C'est l'attente du président de l'Union des Comores, mais on peut s'interroger aussi sur cet acharnement tardif contre Mohamed Bakar, parce qu'en 2001, quand il a renversé le président de l'île autonome d'Anjouan, personne ne s'en est ému. Et en 2002, quand il a été relu de manière contestée, l'Union africaine n'a pas réagi. Comment expliquer aujourd'hui que 6 ans plus tard, elle mette les moyens qu'elle a mis pour le déloger?
Elle a prévenu tout de même.
Elle a prévenu, mais il faut aussi, on remarque également qu'à la veille du débarquement, Mohamed Bakar était prêt à négocier. Il était prêt à accepter qu'une nouvelle élection se fasse sur l'île d'Anjouan, mais son souhait n'a pas été retenu.
Rachid Lua manifeste, comment dire, pour la première fois ses capacités militaires. Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que ça vaut pour l'avenir?
Oui, le principe est intéressant.
À vaincre sans péril, on triompherait sans gloire.
Voilà, le principe est intéressant, sauf qu'il est plus facile à mettre en œuvre aux Comores qu'au Soudan, par exemple.
Au Kenya, la réalité semble compliquée.
Mais disons, ne jetons pas l'enfant avec l'eau du bain, comme on dit. Je crois que le principe est important qu'on mette fin à cette histoire. Et en même temps, vous savez, depuis la modification du statut des Comores, c'est encore devenu beaucoup plus compliqué, c'est-à-dire une île.
C'est compliqué, contradictoire.
C'est une île qui fonctionne pratiquement, je vous dis, comme un département français, avec une configuration géographique et politique qui ne facilite pas aussi les choses. Je crois que l'essentiel, faire fonctionner un État qui est composé de 3 îles principales, je crois que le système fédéral qui a été retenu finalement peut être un exemple intéressant, mais le principe qui a été posé par l'Union africaine, je crois qu'à l'avenir, il va y avoir des voix qui vont s'élever pour que l'exemple puisse s'exporter ailleurs.
Prétendu avec plus de moyens. Comment expliquer les contradictions qu'on a perçues entre l'Afrique du Sud, Thabo Mbeki notamment, et cette coalition où il y avait le Soudan, la Tanzanie, qui eux souhaitaient l'intervention?
Oui, je vois, il y a des considérations.
Ce sont des rivalités régionales.
Il y a des considérations régionales parce que l'Afrique du Sud se considère comme la puissance de la région. C'est une réalité. Elle estime
c'est
que.
Celle qui a conduit la médiation.
Celle qui a conduit la médiation. Elle dit qu'elle doit avoir son rôle un petit peu. Et puis, il ne faut pas non plus oublier qu'aujourd'hui, l'Afrique du Sud fait partie de l'un des principaux investisseurs. Comment après, un peu, bon, l'Iran et la Libye. La Libye, c'est des investissements beaucoup plus. Des investissements d'obédience qui arrivent depuis l'arrivée d'Abdallah Sambi. Cette réalité, elle est là aussi. Et en même temps, l'Union africaine considère qu'elle avait une occasion par laquelle elle pouvait exprimer un certain nombre de principes qui n'a pas pu être mis ailleurs et que dorénavant, on pourra essayer de regarder de cette manière-là.
Quel regard portez-vous?
Moi, ce qui m'intéresse dans cette intervention de l'UA, c'est la présence du Soudan. On peut imaginer que c'est une attitude de politique intérieure, enfin de situation vis-à-vis de sa propre position sur le plan international. On peut retrouver là une attitude très chinoise de politique internationale. Ils vont s'associer, alors qu'ils sont critiqués pour leur manque de respect des droits de l'homme et de démocratie, ils vont s'impliquer dans une opération qui s'appelle Démocratie en Jouant. Et à côté de ça, on voit que dans leur contentieux avec l'Union européenne, avec l'ONU, ils sont extrêmement à cheval sur tout ce qui est légal. Ils vont dire qu'ils respectent les accords à la virgule près. Ils sont prêts, avec acharnement, à reprocher à l'effort chaque fois qu'une roue sortira de l'ornière. Là, c'est vraiment, on sent l'influence chinoise, c'est vraiment une politique chinoise. Et c'est très intéressant de voir que le Soudan s'affiche comme ça dans une opération comme celle-ci.
L'Iran est également un allié.
L'Iran est
pour Sambi, ce coup-ci.
Oui, c'est un allié à la fois, à la fois sur le plan spirituel, si on peut dire, puisque durant de nombreuses années, beaucoup d'étudiants comoriens allaient faire des études à Téhéran. Et en même temps, je crois que Abdallah Sambi, étant donné la situation économique des Comores, il a fait quand même aussi des choix économiques en allant une stratégie avec la fois avec le président Kadhafi et en même temps avec les Iraniens, ce qui n'a d'ailleurs pas facilité naturellement ses relations avec les États-Unis d'Amérique. Je crois que ces deux considérations sont à mettre dans la balance.
Alors, je reviens sur ma question de départ concernant ce dossier. Pourquoi et comment expliquer l'irritation qui s'est manifestée dans la rue des Anjouanais qui sont réfugiés à Mayotte parce que les Français ont exfiltré à La Réunion le colonel Bakar? Ça s'explique comment cela, Rachid?
Mais parce que c'est un peu les hésitations de Paris par rapport à la crise, parce qu'au début, la France n'était pas du tout favorable à l'intervention. La France a estimé qu'il fallait trouver des solutions locales qui ne conduisent pas le recours à la force armée.
Mais
à
partir une préférence aussi pour Mohamed Bakar par rapport à Sambi.
Voilà,
par rapport
à Sambi, francophilie,
Sambi fait un peu peur, si on peut dire, et sur ses choix, sur ses alliés, ainsi de suite. Mais en même temps, la population ne pouvait plus continuer à supporter la manière avec laquelle l'équipe qui Boubacar dirigeait l'île.
On y reviendra, puisque sans doute y aura-t-il un changement de constitution. Merci à vous d'avoir suivi Afrique Press. C'est la fin de cette émission. Nous revenons la semaine prochaine. Au revoir.